Bien, alors nous allons commencer cette journée d'études. Donc bonjour à tous et bienvenue à la journée d'études sur le métier de doctorant et de doctorante en sciences humaines et sociales. Je vais commencer par déjà vous remercier de votre présence et je vais également dire, peut-être pour introduire cette journée, quelques mots sur la genèse de cette journée. Consacrée à la professionnalisation des doctorants. Alors, cette journée, elle est le résultat du travail de quatre doctorantes et docteurs, trois doctorantes et une docteure de l'IRIS, que je vais présenter. Donc, Audrey Marcia, Mona Claro, Simeng Wang, qui nous rejoindra cet après-midi, et puis moi-même, Gaëlle Chartier. En fait, au départ, quand nous sommes rencontrés en septembre dernier, nous devions reprendre le séminaire des doctorants de l'IRIS. Nous envisagions de créer, de continuer, de perpétuer un espace qui existait déjà, d'échanges et de rencontres pour les doctorants du laboratoire. Donc à la fois, on imaginait qu'ils pouvaient discuter de leurs recherches et en même temps se professionnaliser, c'est-à-dire apprendre le métier de chercheur et préparer leur avenir dans la recherche. Et en fait, au fur et à mesure de nos échanges et de notre réflexion, nous en sommes venus à questionner les conditions dans lesquelles les doctorants réalisent leur thèse. En fait, on avait chacune des expériences différentes, donc on a confronté ces expériences. Et un peu dans la perspective de ce qui est mené à l'EHESS dans le séminaire des aspects concrets de la thèse, nous en sommes venus à sociologiser le doctorat au cours de cette année. Nous avons été amenés à rassembler toutes nos questions pour finalement organiser cette journée d'études aujourd'hui, le 25 septembre. Cette journée a reçu le soutien financier et logistique de l'EHESS, de l'IRIS et de l'école doctorale de l'Université Paris 13 que j'en profite pour remercier. Parmi toutes nos questions, nous avons isolé trois axes. Nous avons regroupé sous trois axes et que vous voyez pour le programme. Donc, si vous ne l'avez pas sous les yeux, je pense qu'il reste des exemplaires à l'entrée. Donc, ces trois axes qui rassemblent nos questions, il faut que je souligne également qu'elles ont été amendées, augmentées, améliorées grâce aux propositions de communication que nous avons reçues. Et là aussi, j'en profite pour remercier les intervenants, les discutants et également toutes les personnes qui ont proposé une communication, mais que nous n'avons pas pu retenir. Donc, comme vous le voyez, je vais un peu passer le programme de la journée. Donc, ce matin, on va s'intéresser, on va questionner le doctorant. Les doctorants sont-ils des étudiants ou alors, au contraire, de vrais professionnels de la recherche? Et qu'est-ce que ça sous-tend? Quels sont les enjeux de cette expression? En début d'après-midi, après une pause déjeuner, nous reviendrons sur la dimension quotidienne du travail des doctorants à travers l'espace de travail des doctorants. Et nous terminerons la journée par une troisième série de questions sur les stratégies que mettent en place les doctorants pour préparer la poursuite de leur carrière dans la recherche ou pas. Finalement, alors c'est pas indiqué sur le programme, mais la conclusion pour la conclusion de la journée, nous écouterons Renaud Bécaud et Julie Lemazier, qui sont doctorants Solidaire étudiants et sud-éducation et qui nous présenteront les dimensions, l'enjeu de la professionnalisation des doctorants. Je vais maintenant laisser la parole à Marc Bessin, qui est donc directeur de l'IRIS, puis à Elisabeth Anstedt, qui est membre du conseil de laboratoire de l'IRIS, pour qu'ils achèvent cette introduction. En nous présentant à la fois leur expérience de chercheurs qui encadrent des doctorants, mais également qui sont amenés dans le cadre de leur fonction à l'IRIS à réfléchir sur le métier de doctorant et de doctorante en sciences humaines et sociales. Merci. Et donc je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. C'est plutôt des remerciements d'abord que je voudrais adresser aux organisatrices pour mener une discussion qui est lancinante, qui est perpétuelle dans un laboratoire. Je crois que voilà, c'est pas une question qui est nouvelle. Quand j'étais doctorant, on se posait aussi ces questions-là. Donc, je vais vous dire quelques mots à la fois institutionnels. Hein. Je suis directeur de l'IRIS, c'est une journée de l'IRIS, et donc vous parler un petit peu de ce qu'on essaye de faire dans ce cadre-là, mais aussi en tant que chercheur, en ayant commencé par étant doctorant, donc, et un peu l'évolution aussi dans un contexte qui évolue. Peut-être aussi l'expérience aussi du réseau des jeunes chercheurs santé et société qui se pose aussi tout un tas de questions qu'on va retrouver aujourd'hui autour des aspects de ne pas travailler seul, se socialiser à la fois aux aspects académiques d'une thématique, mais aussi au savoir-faire d'un milieu, la cuisine d'un milieu qui est fondamental. C'est un petit peu tous ces éléments-là, je crois, qui sont récurrents, y compris dans les questions qui apparaissent au fil des titres des communications. Donc, rapidement, sur l'IRIS, c'est vrai que c'est une question pour nous qui est fondamentale. On essaye de faire en sorte que les doctorants soient des chercheurs en tant que tels. Pour ce faire, c'est vrai qu'au niveau, par exemple, il y a des choses sur lesquelles on peut faire en sorte que ce ne soit pas qu'un projet vain, que ce soit en termes, par exemple, au niveau de nos moyens, des missions, etc. Il n'y a pas une enveloppe pour les doctorants, une enveloppe pour les chercheurs. Toutes les demandes, quelles que soient, sont soumises aux mêmes conditions, qu'on soit doctorant ou chercheur. Je pense que c'est assez fondamental dans la façon de concevoir que le statut de doctorant n'est qu'un statut parmi d'autres de la recherche qui est en train de se faire. Évidemment, il faut prendre au sérieux le fait que c'est un statut en même temps qui n'est pas parmi les plus privilégiés. Et donc il faut mettre en place un certain nombre de choses pour les encadrer. Parce que pour répondre à la première question, d'un point de vue normatif, je pense qu'il est fondamental d'arrêter de parler d'étudiants pour les doctorants. C'est quelque chose que je crois qui permettrait de poser autrement la question de l'insertion professionnelle. C'est pas de l'insertion professionnelle, c'est de la mobilité professionnelle à un moment donné, au moment où se pose la question, que ce soit en termes d'abandon, parce qu'il faut aussi parler des abandons de doctorat, mais c'est encore plus compliqué évidemment de valoriser plusieurs années de recherche qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme, mais en même temps ce sont déjà des expériences. Bon, évidemment, lorsqu'on est docteur, que l'on se consacre à tenter de rentrer, à se maintenir dans la vie académique ou, disons, aller vers d'autres fonctions, disons, des sphères, je ne sais pas comment il faut les appeler, plus professionnelles, etc. En tout cas, c'est toujours de la mobilité professionnelle, non pas de l'insertion professionnelle. Parce que dès lors qu'on commence à parler d'insertion professionnelle, eh bien, on rabat toutes ces années de recherche dont on sait bien, regardons en sciences sociales, les gros bouquins, les grosses recherches qui sont publiées, la moitié sont le... Je dis la moitié, j'en sais, j'ai pas fait, mais enfin à peu près à la louche, la moitié sont le fait de thèses. Donc, en ce sens, il faut considérer que c'est bien un métier de la recherche, un moment et c'est la recherche en train de se faire en sciences sociales. Elle se fait pour une large partie au moment du doctorat. Donc, il n'y a pas simplement, c'est pas simplement un moment de transmission, c'est un moment de circulation. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut appréhender la façon dont les institutions, en premier lieu, par exemple, un labo, comment il doit justement appréhender ce statut-là. Où il ne faut pas simplement pas simplement en termes de formation, mais de circulation de savoir. Évidemment, il n'y a pas que du savoir empirique, théorique, etc. Il y a aussi toutes les conditions sociales, j'allais dire, et donc il y a toute une dimension d'accompagnement, de care, qui circule. Un des aspects qui n'est pas très présent dans la journée, c'est aussi comment c'est un... il y a une temporalité plus ou moins longue du doctorat, mais évidemment, qui évolue. C'est aussi la difficulté que l'on a, par exemple, dans un laboratoire, à avoir des collectifs de doctorants qui animent un séminaire, qui animent une thématique, etc. Et en même temps, à des moments donnés, ils se mettent en retrait pour aller sur le terrain ou pour rédiger. Et donc, cet aspect-là est fondamental à comprendre. Et donc, plus ou moins grand engagement dans des activités collectives qui font partie de cette socialisation, eh bien, elles sont aussi à appréhender. Je pense que c'est une chose qu'il faudrait... je pense qu'il y aurait besoin... Il y aurait vraiment... on a là, dans cette journée, des aspects fondamentaux, que ce soit, évidemment, donc, le statut, les lieux de travail. C'est là où on pêche complètement. Nous-mêmes, en tant que chercheurs, on a déjà des difficultés à loger nos chercheurs, évidemment, pour les doctorants, c'est vraiment... c'est un scandale, quoi. C'est un scandale que des gens qui soient payés à des moments donnés, et donc je ne parle pas aussi des docteurs qui ne sont pas en contrat doctoraux, mais qui, en même temps, poursuivent de la même façon des recherches, mais qu'on ne puisse pas les loger, qu'ils ne puissent pas avoir des lieux de travail. Ça, c'est un aspect fondamental et pour lequel, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas au niveau d'un laboratoire. Et puis, sur les aspects de stratégie, donc ces aspects-là sont fondamentaux, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et je pense que, en ce sens, c'est vrai que ça serait... extrêmement important de poursuivre d'autres aspects de cette interrogation qui me semble assez fondamentale. Je dirais quelques mots un petit peu sur des pistes pour lesquelles on essaye de continuer de travailler sur ces éléments-là. À l'IRIS, il y a des aspects... C'est de par la rareté des postes, etc., les conditions de travail et tout, il faut en vouloir pour s'engager dans cette galère, pour dire les choses rapidement. Et ça crée aussi parfois des difficultés, parfois des souffrances. Et on a un labo où il y a un axe de travail, un axe de recherche sur la santé au travail. Donc on sait ce que c'est que de déconstruire la question des souffrances au travail et tout. Mais en même temps, je pense que ce qu'on s'est dit, c'est une chose est de déconstruire toutes ces catégories-là. Une autre chose... et de le prendre au sérieux à partir du moment où on considère qu'on est un lieu de travail. Et donc, on est en train de réfléchir et de mettre en place des aspects qui permettent de faire en sorte que cette question des difficultés, des souffrances, etc., dans un lieu concurrentiel, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est la concurrence, c'est un champ. Et à partir de là, commencer à dire ses fragilités, c'est déjà se mettre hors de la course. Donc, renverser cet aspect-là, considérer qu'il peut être légitime, à condition que ce soit bien encadré, etc., que ce ne soit pas la foire d'empoigne et tout, mais de parler de ses souffrances comme dans tout autre cadre de travail, c'est un des premiers chantiers. L'autre chantier, faire en sorte que la thèse ce soit un cadre collectif. Il y a les séminaires, il y a le cadre du laboratoire, jusqu'à quel point le comité de thèse est sous différentes formes. En tout cas, bon, on va vers des doctorales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde, au moins dans sa troisième année, aura été soumis à une discussion autre que le colloque singulier avec le directeur de thèse. Voilà. Donc, je passe pour amener à parler on ne s'est pas concerté avec Elisabeth, donc c'est des choses qu'on essaye ensemble avec d'autres collègues, parce que dans un laboratoire, c'est pas simplement les doctorants, c'est pas simplement les encadrants, directeurs de thèse. On fait en sorte que faire en sorte qu'un collectif assez important comme un laboratoire soit amené à prendre collectivement en compte la spécificité de ce moment de la thèse et en même temps prendre au sérieux que c'est vraiment de la recherche tout aussi légitime que d'autres recherches qui sont menées ailleurs, fait en sorte que ce soit pas que l'ensemble des collègues soient concernés par cette question de la thèse, de ces difficultés. Donc, ça nous amène à mettre en place d'autres dispositifs de socialisation, d'accompagnement, parce que une chose est d'amener ce moment-là jusqu'à la soutenance, et en même temps, notre but, c'est aussi de faire en sorte que les gens sachent que après, les difficultés ne font que continuer, que se prolonger, et de plus en plus dans un contexte extrêmement compliqué. Et pour autant, un labo, il se doit d'essayer de préparer ses doctorants, ses docteurs à essayer de s'insérer s'insérer que ce soit dans le milieu académique, mais aussi faire en sorte que la mobilité professionnelle, elle ne s'exerce pas simplement dans le milieu académique. Toujours est-il que donc je à travers ces différentes pistes un petit peu brouillonnes, je voulais juste dire à quel point cette question la recherche qui se fait au moment du doctorat, avec toutes les questions très très importante qui se pose dans un contexte de pénurie est pour nous essentielle, et en ce sens il était logique de soutenir pleinement cette recherche, en espérant que les débats à travers les communications assez importantes, nombreuses et riches, semble-t-il, en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de lire les résumés, permettent de poursuivre cette réflexion. En tout cas, merci beaucoup aux organisatrices et merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Bonne journée, en tout cas, et bons travaux.
Donc, on ne s'est pas concerté, effectivement. Donc, je vais me contenter de dire exactement ce qu'il a dit, mais avec mes mots à moi. Juste pour commencer par vous dire que quand j'ai vu l'affiche, j'ai commencé par tiquer sur le titre, puisque de mon point de vue, doctorant, c'est pas un métier, heureusement. Vous n'êtes pas là pour être doctorant toute votre vie. C'est un statut qui ouvre des droits et qui confère des devoirs. C'est une étape éminemment transitoire qu'on espère tous extrêmement courte. Qui correspond à une phase d'apprentissage. C'est le moment qui vous permet d'apprendre votre métier, pas votre métier de doctorant, mais votre métier de chercheur, votre métier d'anthropologue, votre métier d'historien ou de sociologue, qui correspondent à des espaces professionnels différents. C'est un métier qui s'acquiert dans un contexte qui a éminemment changé, Marc l'a dit, d'abord institutionnellement, puisque C'est un contexte qui est désormais marqué par la mondialisation du recrutement. Certains d'entre vous iront faire une partie de leur carrière ailleurs qu'à Paris et ailleurs qu'en France même. C'est une tendance qui est lourde, puisque c'était assez anecdotique il y a quelques années, et maintenant c'est une tendance de requérir un passage par une université étrangère pour étoffer, valider, voire servir de cerise sur le gâteau dans un cursus. L'autre tendance, c'est la dimension éminemment concurrentielle. Je ne vais pas vous faire mal, mais quand même, en gros, on a 100 dossiers pour un poste, c'est une moyenne. Sur certains recrutements, on a 250 dossiers pour un poste. Ça veut dire qu'il y en a un qui va toucher le gros lot, et il y en a quand même 249 qui vont rester sur le carreau. L'effet corrélé de cette grosse pression démographique, c'est le déploiement extrêmement important de la part de la recherche contractuelle, puisque si les contrats à durée indéterminée sont désormais extrêmement difficiles à décrocher, la part des contrats à durée déterminée, des postes de recherche de chercheurs sur des post-doctorats de 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, sur des dispositifs français, européens ou internationaux, est désormais très importante. Alors, l'environnement, il n'est pas que institutionnel, il est intellectuel et professionnel aussi, puisque la façon dont nous concevons notre métier de chercheur, de sociologue, d'anthropologue, a considérablement évolué. On est parti d'un modèle patriarcal et mandarinal dont la France a quand même été l'un des fleurons européens avec l'Italie. On va rendre quand même à César ce qui est à César. Donc on est parti de ce modèle que vous n'avez probablement pas connu ou que vous reconnaîtrez peut-être dans certaines scories qui traînent encore dans les couloirs. Donc on est parti de ce modèle pour tendre, Marc l'a dit, vers un modèle collégial qui est marqué par le déploiement et la généralisation d'espaces tels que les doctorales, les comités de thèse et les jurys élargis, parce qu'il ne faut pas oublier que désormais c'est monnaie courante de voir des jurys de thèse à 5, 6, 7 membres. Or, il y a quelques années, on avait des jurys de thèse à 3 membres et ça le faisait bien. C'est dans ce cadre donc de grandes transformations institutionnelles et professionnelles qu'on a vu fleurir pas mal d'initiatives, des initiatives, là encore, rendons à César ce qui est à César, qui viennent des doctorants eux-mêmes. Et je pense à ce séminaire qui a été animé pendant plusieurs années sur les aspects concrets de la thèse par Maurice Huntsman et Sébastien Kapp notamment, et qui a donné lieu à cet excellent ouvrage que je vous recommande de lire. J'ai pris un exemplaire pour le faire circuler d'ailleurs. Merci de le retourner à l'IRIS. Et des dispositifs qui ont été mis en place aussi par les laboratoires eux-mêmes, dont le nôtre, des dispositifs de professionnalisation des doctorants. L'objectif est double. D'abord, c'est transmettre et de partager des savoir-faire, puisque malgré la généralisation des outils informatiques, on est parti du constat que l'information et donc la formation est mal partagée, ce qui induit des situations éminemment inéquitables entre les doctorants et entre les laboratoires. Donc ça, c'était un premier objectif, partager des savoirs et des savoir-faire. Et le deuxième objectif, qui est plus égoïste aussi pour nous qui sommes des chercheurs, c'est d'accroître la cohésion du collectif de recherche, puisqu'il ne s'agit pas seulement de préparer des individus à des concours ou de leur apprendre à rédiger un dossier, mais il s'agit aussi de mettre en place des modes de fonctionnement qui participent de la dynamique de la recherche et de la dynamique des disciplines aussi. C'est deux objectifs qui nous ont animés pour mettre en place notamment au sein de l'IRIS, à la fois des étapes, des moments qui correspondent à ce premier objectif, celui du partage des connaissances, et puis des étapes ou des espaces qui correspondent à ce deuxième objectif, qui est celui de la cohésion du collectif de recherche, qui ne peut être possible qu'à travers l'intégration des jeunes chercheurs, des bébés chercheurs que vous êtes, totalement et pleinement au sein de tous les espaces de recherche. Donc ça va du conseil de laboratoire aux journées d'études, en passant par les espaces de publication et les espaces d'enseignement. Alors, pour terminer, puisque l'objectif c'est quand même de tenir le temps, je souhaiterais quand même attirer votre attention sur une chose et peut-être vous faire une recommandation. C'est de ne pas vous installer trop longtemps dans cette étape de votre vie, de ne pas assimiler cette étape à une condition, mais de vous rappeler tous les jours, tous les matins, en vous rasant ou en vous brossant les dents, que c'est un état éminemment transitoire et que vous êtes appelé à faire des choses après. Et un appel à vous investir pleinement dans l'appropriation des outils et des espaces de la recherche, en n'oubliant pas que il y a aussi des spécificités disciplinaires et qu'il ne faut pas oublier de traîner vos guêtres dans ces lieux qui vont faire de vous des jeunes historiens, des jeunes anthropologues ou des jeunes sociologues à part entière. Ne restez pas seul, c'est ma première recommandation, mais ne restez pas entre vous non plus. Donc, je vous appelle à, par exemple, recommencer cette journée en l'élargissant au post-doctorant, voire au chercheur, en interrogeant sur ce que l'étape transitoire du doctorant peut avoir de spécifique dans un parcours, mais en intégrant aussi des vieux chercheurs, voire des très vieux chercheurs, qui peuvent avoir aussi l'intérêt pour vous de vous apporter une dimension rétrospective, hein, qui est quand même assez utile pour contextualiser les choses. Hein. Et je vous souhaite une bonne journée de travail.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer notre premier axe de travail autour de la question donc, dont nous avons parlé, les doctorants, étudiants ou professionnels de la recherche. Puisque s'il est vrai que effectivement c'est un moment que l'on caractérise de plutôt professionnel ou professionnalisant, pour autant les doctorants et doctorantes sont souvent ramenés au statut d'étudiant dans les interactions qu'ils peuvent avoir avec justement leur souvent directeur ou directrice de recherche qui les a accompagnés au cours d'un master, etc. Donc voilà, il y a quand même une certaine continuité dans le statut d'étudiant puis de doctorant. Et donc, pour cela, nous allons avoir trois interventions. Et Sébastien Cap a accepté de venir discuter ces interventions. Donc, tout d'abord, autour de la question du statut de doctorant contractuel, je donnerai la parole à Dominique Bray, qui est juste à côté de moi. Ensuite, nous interrogerons justement la question de double casquette à travers une seconde intervention qui sera justement de Florence Tardif-Bourgoin. Je vous laisserai vous présenter plus précisément. Et enfin, autour des questionnements justement du doctorant qui n'a pas de contrat doctoral et autour de la question de qu'est-ce que faire une thèse en situation d'aussi nécessité d'autosuffisance quotidienne et matérielle, et en questionnant aussi la figure de l'intellectuel, nous écouterons Benoît Télé. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous laisser la parole pour qu'on puisse attaquer cette journée en vous remerciant à tous d'être là avec nous aujourd'hui. Merci.
Bien, donc, je remercie déjà les organisatrices de la journée de me donner l'occasion de faire part de tout premier résultat d'une recherche en cours qui porte effectivement sur les doctorants contractuels d'une université parisienne. Donc, pour compléter la présentation, je suis maître de conférence en sociologie de l'éducation à l'université Paris 4 Sorbonne, plus particulièrement à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Paris. Et je m'intéresse particulièrement aux questions de formation de professionnalisation, de professionnalité et d'insertion, bien sûr, professionnelle. Voilà. Donc, depuis la fin du XXe et le début du XXIe siècle, la question de la professionnalisation et de l'insertion professionnelle des étudiants est d'actualité. Dans le cadre de la restructuration des études post-baccalauréat, LMD, elle est devenue un des enjeux essentiels de l'université en France comme à l'étranger. Des travaux de recherche récents, comme par exemple ceux de Guéraud, Simon Zarca, Soldano en 2011, ou encore ceux de Agulon, Convert, Jakubowski et Guggenheim en 2012, ont analysé la professionnalisation à l'université d'une façon générale et ou dans des champs spécifiques. Des rapports, comme ceux de Vincent et Chirache en 1992, de Hetzel en 2006 ou de Lunel en 2007, ont avancé des propositions pour l'améliorer. Des statistiques ministérielles ou autres, celles du CEREC, mesurent régulièrement l'accès au monde du travail pour tous les niveaux de l'enseignement supérieur. Cette professionnalisation prend des formes différentes selon le niveau universitaire de l'étudiant. La thèse est perçue aujourd'hui comme une activité spécifique de l'enseignement supérieur qui peut jouer un rôle professionnalisant au travers des compétences acquises, transposables dans différentes situations d'emploi, que le métier d'universitaire ou de chercheur soit visé ou non, comme le dit Rose en 2008. Si aujourd'hui les années de doctorat sont considérées comme une première expérience professionnelle, ceci est d'autant plus vrai quand le doctorant bénéficie d'un contrat. S'intéresser donc à cette population paraît pertinent, d'autant qu'il s'agit d'un groupe social en lui-même peu étudié en tant que tel, et que les écrits, comme ça a été déjà bien évoqué dans l'introduction, sont souvent le résultat d'analyses réflexives des doctorants eux-mêmes. Je citerai un autre ouvrage que celui qui a été cité, celui de Di Filippo, François et Michel, en 2012. Donc la communication présentée ici s'attache plus précisément à ceux disposant d'une allocation de recherche engagée dans le champ des sciences humaines et sociales. Donc être doctorant contractuel, ce qui représente un faible pourcentage des doctorants en sciences humaines et sociales, signifie a priori endosser un double statut, étudiant d'un côté et salarié. La notion de statut peut s'appréhender à partir de deux grands axes qui conduisent à se positionner selon des modalités qui varient au cours du temps en fonction des trajectoires qui y ont conduit et des contextes. Ce statut s'incarne bien sûr dans les textes législatifs et réglementaires qui le régissent au travers du contrat signé entre l'étudiant et l'institution qui le lui propose et qui fixe les droits et les obligations accordés aux doctorants contractuels. Il prend également forme au travers de la situation et de la position de cette personne dans le système et dans les groupes auxquels il appartient, mais aussi des dispositions qui y ont cours. C'est surtout sur ce deuxième axe que nous nous intéresserons plus particulièrement. Comment la doctorante contractuelle a-t-il ou a-t-elle été conduite à choisir ce double statut? Quelles conditions, quels éléments des trajectoires familiales, scolaires et universitaires l'y ont amené? Ce statut est-il vécu comme l'opportunité de réaliser la thèse dans de bonnes conditions, un financement salutaire, au vu notamment de l'impératif des 3 ans, ou comme une préparation au métier d'enseignant-chercheur? Renvoie-t-il à un entre-deux, selon Typhon et Garcia en 2009, entre la recherche et l'enseignement? Celui-ci est-il la conséquence des circonstances qui y ont mené et ou des formations proposées pendant le contrat? Comment les contraintes pratiques et institutionnelles posées par le fait d'une part d'être étudiant et de devoir faire avancer sa recherche et d'autre part d'être enseignant et de préparer les cours à assurer sont-elles gérées? Qu'attendent-ils ou qu'attendent-elles de l'institution pour les aider à assumer ces deux étiquettes? Comment perçoivent-elles les formations qui leur sont proposées pour les accompagner dans ce double statut? Comment les intègrent-ils ou les intègrent-elles dans une perspective de carrière à venir? Être doctorante contractuelle est-il vécu comme un parcours initiatique, selon Viry en 2006, vers le statut de maître de conférence?
Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse. À partir donc de premiers entretiens réalisés auprès d'étudiants en deuxième ou troisième année de thèse en histoire, langue, littérature et sociologie. Le parcours qui conduit à s'engager dans une thèse pour les doctorants interviewés est celui de bons, voire de très bons élèves. Ce parcours passe pour beaucoup par des structures sélectives comme peuvent l'être les classes européennes au niveau de la scolarité secondaire, les classes préparatoires, l'école normale supérieure, trajectoire ponctuée parfois de distinctions comme des accessites ou des prix au concours général, comme le DIP, un cursus de bon élève classique, on peut difficilement faire mieux. Les socialisations scolaires et universitaires priment dans le choix de faire une thèse. Celle-ci s'inscrit dans la continuité de la formation reçue à l'école normale supérieure, qui est une préparation à la recherche et par la recherche d'apprêter. Elle permet de retarder également le temps de l'insertion professionnelle, notamment pour les agrégés sortant de l'ENS, et de s'ouvrir sur des possibles. Car comme le disait, pour avoir un poste en prépa, avoir une thèse facilite. Il s'agit donc pour les interviewés d'une trajectoire logique. Il semble qu'il ne pouvait pas en être autrement. Pour citer T, il nous dit « Tout ça, ça s'est enchaîné sans que je voie la finalité dans mes études. Je me suis un peu laissé porter. » Docteur ou doctorant, c'est une forme de modèle quand on est en prépa. P dit « Anormal, quand on ne sait pas trop ce que l'on veut faire, ben on passe l'agrégé et après on fait une thèse. » Le choix de l'université, de la discipline et du sujet de thèse relève pour certains du hasard, pour d'autres d'une décision mûrement réfléchie. Les enseignants croisés lors de la scolarité ne sont pas sans influence, parfois même décisifs. Ils représentent des modèles qui ont aiguillonné selon T vers le métier. Les options prises relèvent parfois d'une certaine forme de résistance par rapport à l'institution, par exemple dans le choix de la discipline, discipline plutôt marginalisée dans le système universitaire, comme pour PY, et ou par rapport au fonctionnement de la société d'aujourd'hui, rejet d'une carrière vers des postes plus prestigieux a priori dans le privé, comme le DIEF. Donc, une trajectoire d'où émerge finalement l'envie de ne pas faire comme les autres, de prendre quelques distances avec la voie tracée par le début du parcours universitaire. Quelle que soit la trajectoire, l'intérêt pour la recherche, quand ce n'est pas, selon eux, une forme de vocation, réside dans le fait de construire quelque chose avec sa pensée, comme le dit P, de marquer sa discipline, tant pis si cela passe par un poste de cinquième zone. L'influence de la famille paraît moindre dans la plupart des cas, même si, d'une certaine manière, arriver en doctorat n'est que la résultante d'une inculcation inconsciente de stratégie par les parents. Comme le dit T, tout le monde devient prof dans la famille, alors je suis là pour continuer. Mais atteindre ce statut de doctorant contractuel s'inscrit, dans ce cas, dans une lignée d'ascension professionnelle des parents. D'autres éléments peuvent jouer de façon plus périphérique, les expériences hors du monde scolaire et universitaire, les activités à l'étranger, l'envie de transmettre. Pour les doctorants interviewés, faire la thèse n'aurait pas été envisageable à la suite du master sans l'obtention du statut de doctorant contractuel, tout au moins sans financement. Pour eux, le contrat inscrit la thèse dans une temporalité qu'ils tentent de respecter. L'obtention du contrat ne se passe pas de la même manière pour tous. Pour ceux qui proviennent de l'ENS, ils disent qu'il est facile à décrocher. Il y a environ 60 bourses pour 6 ou 7 départements littéraires, dit T. Même si son obtention passe par une procédure opaque qui consiste à démarcher, je cite Pierre Y, tous les vieux mandarins du département, sans savoir qui précisément, mais en se doutant bien que ça allait être eux qui allaient décider. Pour tous les interviewés, le contrat comporte un monitorat qui, pour les agrégés, présente un avantage en remplaçant le stage en établissement scolaire d'être titularisé dans cette fonction sans être confronté aux élèves. Il s'accompagne également d'une formation complémentaire. Alors ce contrat partagé entre la recherche et le monitorat est vécu comme un travail partagé entre deux mondes. D'un côté, l'école doctorale, de l'autre, l'unité de formation et de recherche dans laquelle le doctorant enseigne. Avec, du côté de l'école doctorale, une pression forte sur la recherche et les éléments de reconnaissance dans ce domaine, les publications, les colloques, et de l'autre, la confrontation au fonctionnement hiérarchique d'une institution perçue comme élitiste. L'enseignement est vécu plutôt de manière positive, pour diverses raisons. Il permet de se changer les idées par rapport au travail de recherche, qui, selon T, tend à phagocyter les esprits. Il conduit à se découvrir d'autres centres d'intérêt. Il n'est pas chronophage, notamment quand les cours se répètent d'une année sur l'autre, ou s'appuient sur ses propres travaux de recherche. Il offre une première expérience d'enseignement, perçue comme importante pour la carrière à venir, pour la qualification et l'obtention éventuelle d'un poste de maître de conférence. La flexibilité du contrat permet des organisations, comme la semestrialisation des enseignements, le regroupement des heures, qui facilitent l'avancée du travail de thèse, car, comme le dit Pierre Ygrec, on est d'autant plus efficace qu'on peut avoir la tête complètement à ça, et la semestrialisation permet ça. Les formations proposées qui accompagnent le contrat leur paraissent centrées quasi exclusivement sur le statut de chercheur, mais en décalage avec leurs besoins dans ce domaine. Cette inadéquation, combinée à une organisation jugée inadaptée, leur donne un sentiment de perte de temps par lequel les agrégés disent être obligés de passer. Ils distinguent ce qui est offert dans le cadre de l'école doctorale et ce qu'il est par l'école supérieure du professorat et de l'éducation, certains signalant en complément des ateliers en vue de l'insertion professionnelle dans les domaines autres que la recherche ou l'enseignement. Ils plébiscitent les moments d'analyse des pratiques, certains enseignements, notamment de l'ESPE, qu'ils voient comme une ouverture sur différents vécus, une prise de recul sur ses propres pratiques d'enseignement et de recherche, une nécessité pour être un bon chercheur, parce que comme le dit P, pour moi, un chercheur qui n'a pas fait d'épistémologie, c'est hautement suspect. Ça veut dire qu'on n'a pas le recul sur sa discipline et ce n'est pas les meilleurs chercheurs. Ils sont plus réservés sur les cours, notamment interdisciplinaires, de l'école doctorale, les jugeant, entre guillemets, triviaux pour ceux qui connaissent un peu le champ, mais incompréhensibles pour les autres. Ils questionnent la pertinence d'enseignement d'initiation à la recherche, vu leur détention déjà d'un master recherche. Ils disent donc en venir à mettre en place des groupes informels au sein desquels ils échangent sur l'avancée de leur travail, présentent les problèmes qu'ils rencontrent, constituant un réseau perçu pour eux comme le véritable lieu de socialisation et de professionnalisation. Comme pour les doctorants en sciences, le statut socio-professionnel de doctorant contractuel en SHS ne dérive pas mécaniquement du contenu de l'activité et de la fonction occupée, pour reprendre Louvel en 2006. Les engagements dans ce travail, résultat de la trajectoire antérieure et des perspectives professionnelles, mais aussi des relations qui se nouent tant par rapport à la partie recherche qu'à celle enseignement, font vivre ce statut sur le mode de la précarité. Celui-ci conduit à s'engager dans une voie sans savoir précisément sur quoi celle-ci débouchera. Il semble à tous insuffisant pour boucler la thèse sur la durée du contrat et nécessite d'envisager dès le départ le financement de la quatrième, voire de la cinquième année, par un poste d'ATER ou par une bourse. Certains signalent d'ailleurs que cette précarité leur est sans arrêt rappelée, que ce soit par les injonctions à la publication, à l'avancée de la recherche, ou que ce soit au travers des relations au sein des UFR. Côté enseignement, les doctorants interrogés se sentent perçus comme des boucleurs de service, des enseignants de troisième zone, dits PY, et non comme des collègues à part entière. D'autres indiquent que cette précarité résulte du manque de visibilité professionnelle à moyen terme, sans que celle-ci s'accompagne systématiquement d'angoisse. Par ailleurs, certains se sentent dans une position un peu paradoxale quant à leur légitimité. Ils se voient, notamment dans les enseignements, comme une valeur ajoutée par rapport à leurs compétences dans certains domaines. Comme le dit T, le fait d'avoir fait les preuves récemment et savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Les légitimes, comme détenteurs d'une autorité intellectuelle, mais d'un autre côté, ils ont quelquefois des difficultés à définir leur posture au vu de l'écart d'âge, du fait d'avoir été choisis pour intervenir en lieu et place d'autres personnes, mais aussi en raison des attitudes qu'ils jugent consommatrices des étudiants de licence. Ce statut est saisi comme un préalable nécessaire pour une carrière d'enseignant-chercheur à l'université. Vu l'incertitude pour y parvenir, plus marquée dans certaines disciplines, certaines ne l'envisagent que comme une possibilité parmi d'autres. L'important étant de savoir saisir les opportunités qui s'offrent dans d'autres administrations, dans la diplomatie, mais le secteur public reste privilégié par rapport au secteur privé comme domaine de débouché. Les agrégés avouent que la question est moins prégnante pour eux. De toute façon, le secondaire leur ouvrira ses portes. Quasiment tous envisagent des changements en cours de carrière afin d'éviter la lassitude qui peut apparaître au fil des ans, pour ne pas s'enquister, dit-il, afin de remédier à un boulot que je juge illégitime, inutile et absurde, dit-P. Reste toutefois le souhait, plus ou moins prégnant chez ses doctorants, d'être un bon chercheur, de marquer sa discipline, dit-F. Cette ouverture vers des possibles autres que l'enseignement participe d'une insertion professionnelle qui, d'après certains travaux, conduit environ 10 à 15% de ses étudiants à être au chômage 3 ans après la fin de la thèse. Pour conclure, l'expérience du doctorat s'effectue dans des conditions variées, conséquence des trajectoires qui y ont conduit et des pratiques universitaires et professionnelles qui l'accompagnent. Carrière de bon élève, passage par l'ENS induisent des choix qui colorent différemment le parcours en thèse. Le contrat accompagné d'un monitorat place le doctorant dans des statuts multiples qui se juxtaposent, se mélangent en fonction des situations. Étudiant, apprenti-chercheur, expert d'un sujet, enseignant, collègue, etc. Il le met dans une posture qui le partage entre deux mondes, parfois en tension, celui de la recherche et de l'école doctorale à laquelle il appartient, le métier de chercheur étant parfois vu comme solitaire et abstrait, celui de l'enseignement de l'autre et de l'UFR dans laquelle il dispense ses cours, le métier étant perçu d'enseignant de manière plus concrète et plus insérée dans un travail collectif. Ces deux mondes, plus ou moins opaques, plus ou moins étanches, questionnent son engagement et son éthique d'apprenti enseignant-chercheur. Des propos tenus par les doctorants interrogés, il ressort finalement, quelques idéotypes quant à l'utilité de la thèse. Un plus à l'agrégation, pour des postes intéressants dans le secondaire, et c'est ce qui est visé par certains. Une entrée pour une carrière dans la recherche, pour d'autres. Une porte vers de multiples possibles, avec des changements, sans choix particulier et précis, pour d'autres encore. Les éléments mis au jour pour ces doctorants contractuels, Thésard, dont la socialisation est particulièrement marquée de la sphère académique universitaire, demande à être confronté avec ceux de doctorants au parcours différent, notamment sans financement ou issus d'autres disciplines. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, merci beaucoup pour cette transition aisée, qui plus est. Du coup, je vais passer la parole directement à Florence Tardif-Bourgoin, parce que nos délais sont quand même assez serrés, vu qu'on a voulu vous gâter en termes d'intervention. Donc voilà, je vous remercie.
Donc, bonjour, je suis Florence Tardif-Bourgoin, et comme donc annoncé, je suis à la fois en activité dans le champ de la formation, et à la fois en doctorat. Donc, mon activité professionnelle, je l'exerce depuis 8 ans. Je suis formatrice, initialement assistante sociale, et aujourd'hui formatrice donc, dans un institut de travail social auprès de ce même public, c'est-à-dire les futurs étudiants, les futurs assistants sociaux. C'est une formation en alternance et qui dure 3 ans après le bac. Et depuis un an, je suis engagée donc, dans une thèse, dans un laboratoire du CNAM qui s'appelle le Centre de recherche pour la formation et qui a cette particularité d'accueillir beaucoup de professionnels en activité qui conjuguent comme moi voilà, des temps de recherche avec des temps d'activité professionnelle et qui sont, comme je vais l'expliquer, confrontés à cette dimension parfois un peu compliquée de transformer son champ de pratique en champ de recherche, mais qui est aussi l'originalité du labo, pour reprendre donc les termes de Jean-Marie Barbier, qui l'a fondé, la constitution des champs de pratique en champ de recherche. C'est vraiment le fondement du laboratoire de s'intéresser aux épistémologies qui entourent ces choix de thèse-là. Pour rebondir sur l'intervention précédente, j'ai postulé un contrat doctoral que je n'ai pas obtenu. Mon idée étant à ce moment-là d'être tranquille voilà, pendant 3 ans pour faire ma thèse. Le bémol étant qu'à ce moment-là, je perdais mon poste. Donc bon an, mal an, j'ai échoué au concours, je conserve mon poste, mais du coup je l'ai réduit sur un mi-temps. Donc aujourd'hui je conjugue 2 statuts, je suis salariée d'un côté, je suis doctorante de l'autre. Sur le plan de mon activité professionnelle, le statut est assez clair, hein, je suis rémunérée, professionnelle de la formation. Et sur le plan de mon statut de doctorante, il l'est un petit peu moins. Donc je ne suis pas encore une professionnelle de la recherche. Je ne suis pas non plus une étudiante, mais en apprentissage, donc une élève du CNAM. Une formatrice en recherche, c'est pour l'instant ce qui, je pense, me définit le mieux, dans la mesure où ma thèse n'est pas financée par mon employeur, c'est une initiative personnelle. Elle n'est pas inscrite, par exemple, dans le plan de formation. Pourtant, un certain nombre d'activités que je peux avoir peuvent être inscrites dans mon activité de formatrice. Assister à un séminaire, ça fait aussi partie de l'actualisation des connaissances du formateur. Et puis le statut peut-être qui serait le statut visé, c'est celui de formateur-chercheur, c'est celui qui est en train de se dessiner dans le paysage de la formation en travail social, où il est question de construire des hautes écoles en travail social et où du coup les formateurs auraient plus de place pour faire de la recherche. Donc on est un certain nombre à se lancer dans ce type de choix et d'investissement. Donc pour un salarié, enfin pour quelqu'un en activité professionnelle, j'ai essayé de construire mon intervention en 2 temps. Il y a à la fois, je pense, des choix à faire sur un plan scientifique, méthodologique, et puis des choix à faire sur un plan organisationnel. Sur un plan scientifique, c'est d'abord le choix du sujet qui va orienter le salarié en activité sur son terrain professionnel ou pas. Et du coup, ça implique de mesurer tout ce qui va toucher à la place des acteurs dans le recueil de données, dans son matériau, et de bien réfléchir aux retombées sociales de sa recherche. Donc, en ce qui me concerne, donc avant d'intégrer ce laboratoire, donc le CRF, j'ai démarré par un master qui n'était pas spécifiquement intitulé un master recherche. C'était un master en management social et culturel. Mais dans le cadre de ce master, j'ai rencontré la recherche action. Et c'est à travers cette recherche action que j'ai trouvé, en tout cas, le sujet qui est devenu ensuite un sujet de thèse. Donc, cette recherche action est donc accompagnée. C'est un master qui est aussi au CNAM, au CEST, Centre d'économie sociale. Voilà. C'est une recherche-action qui est accompagnée en atelier, donc sur un modèle assez classique hein, d'accompagnement de mémoire, qui donne lieu donc à l'écriture d'un mémoire, mais qui commence par l'écriture d'une notice de parcours. Et c'est donc dans cette notice de parcours que les auditeurs vont puiser en fait les ressources à travers leurs expériences professionnelles de ce qui pourrait devenir un projet de recherche et qui pourrait devenir au-delà un projet de changement ou d'évolution professionnelle. Donc la méthode utilisée est inspirée de l'autobiographie raisonnée de Desroches. Pour ceux qui connaissent, voilà, on transforme d'abord une notice de parcours en notice de projet pour être sûr finalement d'ancrer son choix de sujet de recherche-action dans quelque chose qui va vraiment être porteur. Donc en ce qui me concerne, j'ai relié dans cette notice de parcours tout ce qui relevait de mon expérience professionnelle en tant qu'assistante sociale puis en tant que formatrice, puis ce qui relevait de mes cursus universitaires et notamment les sciences de l'éducation qui sont, revenues très très fort, très très fortement dans cette écriture. À ce moment-là, ma perspective n'était pas du tout de tomber dans la recherche. C'était plus de faire évoluer ma pratique de formatrice, d'acquérir un domaine d'expertise, voilà, qui me permettait d'être un peu plus, peut-être aussi un peu plus au clair avec tout ce que je pouvais transmettre à mes étudiants. Donc j'ai envisagé des sujets très différents au début. Certains portaient directement sur ma pratique de formatrice. D'autres, donc par pratique de formatrice, j'entends à la fois des sujets qui pouvaient, qui touchaient notamment des aspects de la formation par rapport aux futurs assistants sociaux. Donc ça interrogeait pratique de formatrice, pratique d'assistante sociale. Mais je ne souhaitais pas que mon travail soit récupéré, entre guillemets. Je voulais vraiment une indépendance par rapport à mon choix de sujet et je ne voulais pas l'effet un peu commande qui aurait pu résulter en fait de ce choix-là. Et d'autres choix de sujet m'ont amené très très loin dans des perspectives plus sociologiques, analyse des politiques sociales, voilà, sociologie, sciences politiques. Et puis, au fur et à mesure donc, des rencontres avec l'animateur d'atelier, j'ai finalement choisi un sujet donc, qui est celui de la formation des bénévoles, qui ne touche pas directement mon activité professionnelle, qui ne m'implique pas dans mon institution, mais qui est parti des questionnements voilà, que les étudiants me renvoyaient sur la façon dont ils envisageaient, eux, leur place auprès des bénévoles quand ils étaient accueillis en stage. Donc, le terrain que j'ai choisi, c'est un terrain associatif où n'exerce pas particulièrement d'assistante sociale. On est dans le travail social, mais je ne suis pas dans mon champ d'activité. C'est aussi donc à partir de ce premier travail-là que je me suis engagée sur un plan théorique. On parlait de l'orientation dans une discipline. À mi-chemin, il y a 3 ans, entre d'apports sociologiques, sociologie de l'engagement bénévole, sociologie des organisations, et puis donc tout ce qui touche à la professionnalisation, c'est-à-dire un premier ancrage en formation des adultes, en sciences de l'éducation, plus particulièrement en formation des adultes. Et c'est notamment parce qu'il m'a fallu clarifier des enjeux sociaux très très forts sur l'idée même de former des bénévoles, qui faisait sauter au plafond la plupart de mes collègues, qu'il m'a fallu rapidement conceptualiser voilà, qu'est-ce que j'entendais par formation des bénévoles et qu'est-ce que c'était la professionnalisation du bénévolat. Et donc ça a constitué le point de départ aussi de mon choix de labo et de mon choix d'inscription en thèse dans un laboratoire en formation d'adultes. Si je parle des enjeux sociaux, c'est parce que je pense que quand on choisit malgré tout un sujet qui touche son activité professionnelle, on est obligé à un moment donné de mettre à distance un certain nombre d'enjeux qui sont très forts là, puisqu'il est question de la relation entre les salariés et les bénévoles. En termes de professionnalisation, ça pose plein de questions très actuelles. Et du coup, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai resserré sur la pratique d'accompagnement du bénévole. C'est plus la formation en général, c'est pas les dispositifs, c'est la pratique du professionnel qui va accompagner le bénévole dans ses missions. On touche aussi à la question des valeurs. Et puis, on touche à un tutorat que moi, je connais indirectement, puisque mes étudiants sont tutorés sur leur terrain de stage aussi. Donc, il fallait que je distingue les deux types de pratiques. L'idée dans le repérage des enjeux sociaux, donc ce que mon directeur de thèse m'a engagé à faire très rapidement, les enjeux pour les bénévoles, les enjeux pour les associations, les enjeux pour les salariés impliqués, ça a été de me permettre de mettre à distance, en tout cas dans un premier temps, tout ce qui pouvait relever de logique d'acteur et de ne pas faire de la recherche quelque chose qui soit des réponses à des questions très pratiques ou trop ancrées dans des logiques d'action. pour ensuite, une fois qu'on a à peu près identifié les enjeux sociaux, on les met à distance, mais ça permet aussi de les réinvestir. Par exemple, de les réinvestir dans des communications que je peux faire, pas avec un statut scientifique, mais avec un statut plus de communication professionnelle. C'est-à-dire réinvestir aussi des choses dans des organisations plus de type professionnel. C'est aussi l'idée de communiquer les résultats de sa recherche aux acteurs qui participent. Parce qu'il y a une certaine connivence, malgré tout, qui s'installe quand on interviewe quelqu'un qui est directeur d'une association et qu'on est soi-même en train de former des étudiants qui, potentiellement, il pourrait accueillir. On est obligé, malgré tout, de faire attention à la façon dont, dont la connivence va s'installer. Et en tout cas, le contrat que je me suis passé, c'est l'idée de leur transmettre tout le temps les résultats. C'est-à-dire que pour eux... après, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais en tout cas, ça permet aussi de pouvoir expliquer que ce n'est pas directement les résultats de ma recherche qui vont répondre à leurs questions. Mais que par contre, ce qu'ils viennent de me dire peut aussi les aider à engager d'autres réflexions. Donc ça, c'est un positionnement que moi, j'ai choisi de séparer mon activité de... en tout cas un petit peu de mon terrain, mais d'autres professionnels en recherche font au contraire le choix d'investir justement une question très, très en lien avec leur pratique professionnelle, avec l'avantage d'un accès au terrain facilité, ce qui n'est pas mon cas, mais une position pas facile forcément à tenir sur un plan institutionnel. Donc là, on se situerait plus dans des recherches de type recherche-action, recherche collaborative, recherche appliquée, ce que j'ai choisi moi de mettre à distance, en tout cas pour la thèse. Alors, au niveau des logiques d'organisation... Ça va au niveau du temps ?
Il reste à peu près 5-6 minutes.
Parfait. Donc, cette dissociation que j'ai opérée entre mon activité et ma recherche... elle s'est accompagnée aussi sur un plan donc, organisationnel d'une distinction entre mes différents temps de travail. Donc jusqu'à l'année dernière, j'étais dans quelque chose d'un peu compliqué avec des journées pour la thèse, des journées pour la formation. Et donc depuis cette année, j'ai fait quelque chose d'un peu plus organisé avec un mi-temps très, très concret. Voilà, je suis formatrice lundi, mardi. Voilà. Et le reste, c'est pour la thèse. Sauf que quand on est en thèse, on a tout le temps la tête dans la thèse. Et que forcément, que c'est un peu compliqué parfois de se dire que, j'étais en train de réfléchir à l'analyse de mon entretien, il y a tel article qu'il faut que je... Voilà. Donc du coup, moi, ce qui m'a pas mal aidée, c'est la tenue d'un carnet de bord, mais ça, je pense que tout le monde le fait, mais du coup, ce carnet de bord, il me permet aussi de noter concrètement où j'en suis et comment je me projette. Il est associé à un agenda qui est complètement détaché de ma vie professionnelle. Voilà. Où j'essaye de me dire, telle journée complètement disponible, là je m'engage dans un truc qui va prendre du temps, une restitution d'entretien, voilà, et quand j'ai des temps un peu plus courts, eh ben, je les prends pour organiser des rendez-vous, pour répondre à des mails, voilà. C'est toute une organisation pour éviter de se faire dépasser. Moi j'essaye de me fixer des objectifs à court terme, 2-3 mois, et j'essaye de faire en sorte que ces objectifs de travail correspondent aussi à des communications de recherche. Un appel à communication, j'essaye de me dire, tiens, à ce moment-là, j'en serai à peu près là, je peux pas répondre, pour éviter l'éparpillement et pour éviter aussi ce sentiment de frustration qui est assez, assez fort par moment. Donc ça, c'est sur la gestion des temps. Un autre point aussi, qui peut être une spécificité quand on est déjà professionnel, c'est de trouver sa place dans les espaces de recherche qu'on mentionne depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les séminaires doctoraux, les moments où on va présenter l'avancement de son travail, les séminaires d'axes, donc dans notre laboratoire, on a des axes thématiques dans lesquels les doctorants s'impliquent aussi. Mais c'est aussi toutes ces propositions qui affluent, faire partie d'un comité d'organisation, faire partie d'un collectif pour une réponse à appel à projet, pour une recherche collective. Donc voilà, trouver toujours l'équilibre pour participer sans partir dans un excès trop fort d'investissement. Dans ces espaces de recherche-là, il me semble, et pour revenir sur la question d'être étudiant ou d'être professionnel, je pense que le doctorant en activité est positionné
comme tout doctorant, dans une logique de partage, dans une logique d'ouverture par rapport à sa recherche, et à la fois dans une logique de formation, d'acquisition, d'une posture de recherche, et dans une logique de professionnel de la recherche, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait d'ouvrir ces espaces de travail, d'en faire des collectifs où le doctorant a la même place qu'un chercheur. Il y a d'autres espaces de recherche que j'essaye, moi, d'investir, qui sont celui de la formation, c'est-à-dire que j'essaye de faire que ce que j'investis comme production de connaissances serve aussi à mes étudiants. Voilà. Et puis, sur un plan institutionnel, même si la recherche n'est pas encore complètement reconnue, ça a été faire partie d'un collectif où plusieurs doctorants de la même institution, tous formateurs, tous impliqués dans des labos différents. Voilà, comment on s'en sort dans nos thèses. Donc ça, c'est des espaces qui nous aident aussi à réfléchir à la fois à la place de la thèse dans nos parcours, mais aussi à nos différents objets de recherche qui vont tous, à un moment donné, alimenter notre même finalité, qui est le travail social. Pour finir, peut-être juste dire que... Donc c'est en ce moment un enjeu très fort dans le paysage du statut du formateur, que cette place de la recherche, qui a une logique de reconnaissance d'un statut, mais aussi une logique de reconnaissance d'une transformation qui là, par contre, je pense, concerne tous les doctorants, cette logique de transformation, et du coup, qui fait appel à l'expérience. La mienne, elle est passée, présente, mais qui peut aussi tout à fait viser l'expérience à venir et la logique d'insertion professionnelle qu'on verra cet après-midi. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour cette intervention très riche et de la nourrir d'un parcours à la fois individuel, mais qui en même temps alimente des réflexions très collectives et très intéressantes. Du coup, je vais passer la parole à Benoît Tellet pour son intervention. Donc,
Donc, je suis Benoît Tellet, je suis doctorant de sociologie au laboratoire C3S à l'Université de Franche-Comté. Vous verrez sans doute au fil de ma discussion que j'ai peut-être une particularité vis-à-vis du fait d'être ici, parce que finalement je suis assez peu souvent, mon parcours fait que je suis assez peu souvent entouré de doctorants. Donc je remercie l'IRIS et les organisatrices de cette journée de me permettre de me retrouver dans cette situation où je suis dans mon milieu. Donc il s'agit de parler de la pertinence de parler de métier dans le cas du doctorat. Et ma démarche sera de montrer qu'il existe des parcours de doctorants où finalement on est très très éloigné d'une idée de métier de doctorant en fait. Alors moi, quand j'ai lu l'appel à communiquer, j'ai pensé au concept de métier d'élève de Pernoud et qui définit en fait le métier d'élève comme... il parle de métier à partir du moment où il y a des normes, des règles, des contraintes, un bon comportement et un mauvais comportement, et finalement une organisation du temps qui est sujette à sanctions si on arrive en retard, tout ça. Donc si on utilisait un syllogisme... on pourrait dire facilement que si élève est un métier et qu'on accepte que doctorant soit un sous-ensemble de élève, donc il existerait bien un métier de doctorant. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Doctorant, c'est pas tout à fait être élève. Et puis en plus, sa définition du métier est un peu large, puisque à ce moment-là, être automobiliste, ce serait un métier aussi, puisqu'il y a aussi des règles et tout ça. Donc je vais laisser Pernoud. Et je vais parler. Donc je vais plutôt m'attacher aux disparités entre les différentes situations doctorales. Et moi, j'ai relevé, en tout cas, il me semble avoir été à peu près exhaustif, j'ai relevé 7 critères qui font qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément tous les mêmes parcours. Donc ces critères sont assez simples. Il y a évidemment le sujet de la thèse, il y a le laboratoire de rattachement et le choix du directeur de recherche. Il y a le projet doctoral, le master d'origine où, effectivement, j'avais pas pensé, mais effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas forcément peut-être tout à fait d'un master avant de démarrer une thèse. Il y a le financement, le temps et lieu de travail de doctoral et l'entourage social. Donc tout de suite, le sujet de la thèse, évidemment, il y a des sujets qui répondent plus ou moins, qui sont plus ou moins ancrés dans une situation, dans un contexte social et qui font que... elles sont plus ou moins pertinentes ou opportunes vis-à-vis de l'époque, enfin du moment, elles arrivent à point. Il y a des sujets de thèse qui vont faire que la personne va avoir trouvé le sujet qu'il fallait en gros pour pouvoir faire beaucoup de communication, faire beaucoup de publications, tout ça. Disons qu'il y a des sujets qui ont plus ou moins la cote, en fait. À côté, il y a des sujets qui finalement sont un peu comme des pas de côté, comme dirait GB, qui sont un peu qui se retrouvent un petit peu à côté de la plaque, mais sans forcément que ce soit négatif ou positif, et qui finalement sont pas forcément donnent pas forcément l'occasion d'être de participer à des communications ou même de pouvoir se faire publier facilement. Donc, quelque part, il y a la question, évidemment, de à qui profite le sujet de thèse. Et de ça va découler, évidemment, beaucoup de situations différentes. Évidemment, si la thèse est plus ou moins liée à de la recherche fondamentale et appliquée, même si en sciences humaines et sociales, c'est un peu plus compliqué qu'en physique chimie. Donc, il y a ça. Il y a le laboratoire de rattachement et le directeur de recherche. Donc, évidemment, tous les laboratoires n'ont pas la même place, le même statut, n'ont pas les mêmes ressources. Et tous les directeurs de recherche n'ont pas les mêmes relations de faire avancer les choses ou de régler certaines situations problématiques. Je ne vais pas m'attarder sur ces points, donc c'est juste, ça ne me semble pas forcément être les points cruciaux. Simplement souligner qu'il y a quand même une inégalité des savoirs vis-à-vis de tout ça. Et il y a quand même une partie des gens qui arrivent dans le milieu du doctorat sans savoir qu'il y avait des choix à faire intéressants à ce moment-là et qu'on peut louper le coche. Et je pense qu'il faut séparer deux, la connaissance traditionnelle, qui est celle bibliographique, par exemple, savoir que ceux qui lisent régulièrement des revues, tout ça, savent qu'un tel prof est aussi directeur de publication de telle revue ou un tel écrit souvent pour telle revue et donc il connaît cette personne, il est plus ou moins lié à elle et donc tout ça crée une espèce de savoir qu'on a ou qu'on n'a pas selon qu'on lit les livres, qu'on lit la littérature grise avec les bibliographies, tout ça. D'un autre côté, il y a aussi des connaissances tacites, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur les rumeurs d'une université, sur savoir que tel prof fait partie de tel laboratoire et qu'il a décidé de pourrir l'autre, parce qu'il y a aussi des combats un peu comme ça. Et ces rumeurs de couloir, tout le monde n'y a pas un accès équitable à ce niveau-là, quoi. Donc ça m'amène à un troisième point qui me semble plus intéressant, c'est les projets du doctorant et finalement pourquoi il s'est engagé dans la thèse. Et donc il a été question effectivement de différents types de motivations et je pense que ce qui est peut-être primordial, c'est savoir est-ce que la personne envisage la thèse comme un aboutissement des études ou comme les prémices d'un statut d'universitaire, d'un statut de chercheur. Donc ça va avoir beaucoup d'effets sur la situation doctorale. Il y a aussi la question de l'attachement à la discipline. Est-ce que la personne se reconnaît d'abord comme sociologue, historien ou géographe, ou est-ce qu'il se sent d'abord chercheur sur sa thèse, sur son sujet, sur son thème? Je me rappelle d'une réunion de pré-rentrée à Tours où, en fait, on nous parlait beaucoup de la rédaction et déjà, on nous parlait de la publication après et il y avait vraiment une projection. On sent que, et même tout à l'heure dans les discours d'introduction, on sent qu'effectivement, la logique à avoir, c'est peut-être la logique qui est favorisée, c'est la logique de envisager son statut doctorant comme une prémisse à l'avenir et on nous encourage beaucoup dans ce sens-là. Un quatrième point, c'est le master d'origine, enfin, ou la situation d'origine avant le doctorat. Et je pense qu'on peut faire une séparation aussi assez nette entre ceux qui viennent d'un master recherche et ceux qui viennent d'un master professionnel. En gros, il me semble que ceux qui font un master professionnel n'avaient pas forcément prévu, enfin, la thèse leur tombe un peu dessus, par hasard. Et ceux qui sont dans le master recherche ont finalement une espèce de méta-connaissance sur ce que va être la recherche. Donc, voilà. Alors, et celui qui vient d'un master recherche a plus de chances d'avoir des connaissances informelles, ce que j'expliquais sur les rumeurs de couloir. Il est plus dans ce milieu-là, quoi. Alors que dans un master professionnel, on a beaucoup d'intervenants, on a beaucoup de gens extérieurs à la discipline ou au milieu universitaire même. Donc tout ça, ça donne des disparités matérielles conséquentes, notamment le financement et le lieu et le temps de travail. Donc le financement, moi, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est juste évident. Il y a ceux qui ont des cours. Je pense qu'on représente plus ou moins les trois types, ceux qui font un doctorat contractuel, les personnes qui ont un travail qui est finalement quand même lié à leur recherche, et ceux qui ont un travail alimentaire qui n'a absolument aucun lien avec leur thème de recherche. Donc il se trouve que je suis dans la troisième catégorie, je suis donc caissier dans une supérette. Et voilà, donc évidemment tout ça va m'amener au sixième point, le temps et lieu de recherche. Donc on voit les nécessités de s'organiser et les difficultés à trouver un lieu. On sait que travailler chez soi, c'est pas forcément très simple, sachant que c'est à la fois le lieu de repos pour celui qui a travaillé et c'est en même temps censé être le lieu de travail du doctorant. Donc voilà. Et j'arrive surtout au point qui m'intéresse, donc le septième point, sur l'entourage social. Donc il nous était conseillé de ne pas rester seul et de ne pas rester entre soi. Et des fois, c'est que en partie un choix. Moi, il se trouve que du coup, je suis inscrit à l'université de Franche-Comté. J'ai ma directrice de recherche qui est à Nantes. Et moi, je travaille à Lyon. Donc en fait, je côtoie ni beaucoup, à part par mail, ma directrice de recherche. Je vois très peu les gens de ma fac. Et je pourrais voir les gens de la fac de Lyon, mais c'est différent, parce que finalement, on n'appartient pas... Enfin, ce serait bizarre d'arriver un peu comme ça, comme un cheval à soupe. Donc voilà. Donc la question de l'entourage social, c'est aussi la question de qui tient-on pour collègue, puisque le métier, c'est aussi les collègues. Donc est-ce que finalement... nos collègues, ceux qu'on considère comme collègues, sont des doctorants, ou est-ce que ce sont nos amis caissiers de Supéru ou autre. Donc je vais m'arrêter, je vais faire une petite pause sur la question de métier, puisque j'ai un peu critiqué celle de la définition de Pernoud. Pour moi, le métier, c'est la création quand même d'un entre-soi, d'une forme d'entre-soi, et c'est aussi... En ça, c'est aussi le partage d'une technique et dans une certaine mesure, la création de l'incommunicabilité de cette technique avec l'extérieur. Donc finalement, c'est quand même toujours un métier, c'est une forme de cloisonnement. Et je vais introduire Denis de Rougemont, puisque à un moment, je tiens à parler de Denis de Rougemont. Mais pas avec le journal d'un intellectuel au chômage, sur lequel j'ai particulièrement travaillé pour cette conférence, mais sur La part du diable, où il parle à un moment du mythe de la tour de Babel, qui reprend à Dante, que Dante développait dans le traité de l'éloquence vulgaire. Donc le mythe de la tour de Babel, c'est simplement une autre version que celle de la Bible, qui serait de dire que la tour de Babel se serait effondrée de toute façon, avec ou sans l'aide de Dieu, puisque de toute façon... plus la tour de Babel, qui est construite à la base pour créer une espèce d'unité humaine et préserver une langue commune et tout ça, à force de monter d'étage en étage et de faire un édifice plus important, il a fallu professionnaliser les gens, il a fallu spécialiser les gens dans leur tâche. Le maçon a dû... pour gérer l'importance du lieu, se spécialiser, créer des choses toujours plus fines, de même de son côté, celui qui apporte l'eau, celui qui apporte le ciment, tout ça, et l'architecte. Et chacun s'est spécifié dans sa mission, dans son métier. Et finalement, ils ont fini par devoir se créer un jargon toujours plus précis, toujours plus, plus fin. Et au final, ils ont fini par ne plus pouvoir se comprendre. Et du coup, ils ont du mal à, ils n'auraient pas pu, avec ou sans l'aide de Dieu, finir l'édifice, puisque de toute façon, ils auraient fini par ne plus se comprendre. Et on ne peut pas créer un monument sans pouvoir échanger avec les autres corps de métier. Donc, tout ça pour dire, je ne vais pas m'étendre sur ce mythe, simplement, je pense que c'est une bonne chose de voir le métier aussi comme une forme de langage. Et la question, finalement, que je posais tout à l'heure sur qui sont nos collègues, c'est aussi avec qui partage-t-on une langue. Donc là, ça m'amène au journal d'un intellectuel en chômage de Denis Rougemont. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est... Denis de Rougemont a travaillé pour les éditions Je Serre. Et en 1933, quand les éditions font faillite, il se retrouve avec des difficultés financières qui font qu'il ne peut plus habiter à Paris, là où il était au sein du milieu intellectuel. Et il va aller habiter à l'île de Ré. Plus ou moins, je pense que c'est un petit peu volontairement aussi qu'il va s'échapper à l'île de Ré, mais bon. Donc il part là-bas et il se retrouve sorti de son milieu, finalement son milieu de, pas d'origine, mais son milieu culturel. Et il se retrouve entouré de à l'époque, l'île de Ré, c'était vraiment la paysannerie, quoi. Et il pose à partir de là toutes les questions que se posent d'une manière générale les personnes qui se retrouvent dans une espèce de choc culturel. C'est finalement les gens qui sont là-bas ne comprennent pas trop son métier d'intellectuel. Et il y a des échanges très difficiles et il tient son journal pour noter toutes ces petites... pour noter et analyser tous ces moments, en fait, d'échange, quoi. Donc... ça pose plusieurs questions. Déjà, il pose clairement la question du rapport à Paris. Et je pense que c'est pas... Enfin, je sais pas si ça aura l'occasion d'être abordé, mais je pense qu'il y a une différence entre être doctorant à Paris et être doctorant hors de Paris. Je le sais d'autant plus que mon premier directeur de recherche, qui était de Tours, m'a vraiment encouragé à aller poursuivre ma thèse à Paris. Et notamment, il m'a vanté, donc j'attends la communication de tout à l'heure avec impatience, il m'a vanté les mérites de la BNF. Il a dit que c'était vraiment le lieu pour travailler. Alors, j'ai pas forcément tout à fait pu l'écouter, je suis pas... Mais voilà. Ça pose la question aussi, donc je reviens sur l'entourage social. Denis Rougemont parle de réalité rugueuse. Et alors ça, c'est ce qui va m'intéresser pour le reste de la communication. La réalité rugueuse, c'est finalement ces moments de friction et ces moments de... qu'il a presque de rejet, en fait, de la population qui l'entoure. Une espèce de... presque une forme de montée de... pas d'élitisme, mais des fois, il n'en peut plus d'être entouré de gens qui ne comprennent pas ce qu'il fait, et on sent que des fois, il ne peut pas s'empêcher de ressentir une forme de... peut-être pas de dégoût, mais au moins de rejet. Donc, avec les commérages, l'horizon parfois un peu étroit qu'ont certaines personnes. Donc, moi, je rapprocherais ça de ce que j'appellerais une sorte de peuple de l'ananké. Donc, l'ananké en grec, c'est la nécessité. C'est finalement l'idée que... on n'a pas le choix, l'oubli du choix, et l'idée que finalement, on ne fait que subsister et trouver les moyens pour subsister continuellement. Et je pense, alors c'est très critiquable, et on pourra en discuter évidemment. Je pense que d'une certaine manière, une partie de la population voit son temps divisé en deux. C'est-à-dire le temps où on trouve les moyens de subsistance et les temps où on se repose pour continuer à pouvoir trouver les moyens de subsistance. Alors c'est évidemment, il y a toujours des c'est du concept, il y a toujours des interstices, il y a évidemment, heureusement, toujours des moments de sublimation, des moments de où on crée du symbole, où on crée des il y a autre chose, mais je pense que c'est pas tout à fait faux de voir en partie les choses comme ça. Et je vais tout de suite m'arrêter sur le langage de la nanké, puisqu'il était question de métier et donc de langage, selon moi. Donc, et là, je vais devoir parler de choses plus, d'exemples plus concrets de finalement de mon quotidien. Oh merde. avec notamment les rencontres avec les clients à la caisse. Et donc, il y a la question du ça va. Et tout, parce que évidemment c'est un commerce de proximité, les gens je finis par connaître les clients et il y a toujours des échanges un peu plus poussés que dans d'autres supermarchés. Et au lieu de dire juste bonjour et le prix, on dit aussi ça va et l'autre personne répond ça va. Donc ça c'est la fonction fatigue classique. Et on n'a pas développé, sauf que finalement il y a quand même un moment où on a envie d'en dire plus, on a envie de dire que il faut aller. Et alors l'expression « il faut aller », ça me semble être tout à fait typique de ce que j'appellerais un langage de la nanké. C'est l'idée qu'il est nécessaire d'aller. Enfin, c'est, pour moi, c'est complètement symptomatique. Ou alors, comme un lundi, c'est toujours la même idée. Il y a aussi les questions du climat, donc je ne vais pas m'étendre sur le climat, mais parler de la pluie, c'est finalement parler de quelque chose de nécessaire et de partager, de nécessairement partager. S'il pleut, il pleut pour tout le monde, et tout le monde aura à se couvrir pour éviter la pluie. Donc, je vais pas... finalement, ma position, c'est souvent une position où je finis par me sentir comme un usurpateur, puisque... À la fois, je joue le jeu de parler du beau temps, et en même temps, je me dis souvent, puisqu'en tant que sociologue, j'aimerais tellement leur parler d'autre chose, partager autre chose avec eux, que parler du beau temps. Et donc, à partir du moment où on met en doute qu'il puisse y avoir un autre langage que celui de la nécessité, on met en doute même la nécessité, puisque à partir du moment où on doute et on se propose, c'est se proposer un choix, et donc c'est se retrouver étranger à la nécessité, et donc étranger à la nanké. Donc il y a ce premier écart avec ce milieu, qui en plus méconnaît terriblement, terriblement, je ne sais pas si c'est terrible, ils n'en souffrent pas, mais les situations doctorales, enfin pas plus tard que avant-hier, quand j'ai annoncé que j'allais sur Paris et que j'ai dit que j'y allais pour... une journée d'études sur le métier de doctorant, on m'a demandé ce que c'était que le doctorat, on m'a demandé si je voulais être docteur, et évidemment en médecine. Et donc il a fallu que j'explique que le doctorat c'est bac plus 5, alors bac plus 5, tout ça. Enfin, oui, mais à partir de bac plus 5. Et donc il se retrouve en fait, il finit par y avoir une espèce de gêne. Non, ça va. Il finit par y avoir une gêne à être de dissimulation, de parfois par commodité, dissimuler le fait qu'on est doctorant en fait. Et on essaye de se mêler entre guillemets à la foule. Et voilà. Donc c'est une position assez paradoxale où finalement on n'est pas avec les doctorants avec qui on partage quand même une situation. Et en même temps, ceux avec qui on est, on ne peut pas tout partager véritablement. Donc on peut parler d'une forme de schizoïdie, en fait. On n'en souffre pas quand même. Donc pour les méthodes de travail, très vite du coup, ça veut dire qu'il y a des espèces c'est une situation très discontinue, où finalement... Très souvent, que ce soit par la fatigue du travail ou par le fait qu'on est continuellement plongé dans cette espèce de langage de la nanké, il est dur de travailler. Et en même temps, les moments où on a une idée, ça devient des espèces de petits moments assez rares où d'un seul coup, l'énergie va naître d'une pensée qui va... Parce qu'effectivement, on a toujours la thèse en pensée. Et qui va faire écho à quelque chose. Et il va y avoir une espèce d'éclair très très agréable à vivre. Donc voilà. Je sais pas combien de temps. Donc simplement pour finir, je voulais juste dire qu'il y avait aussi un bonheur à être dans cette situation, un peu en entre-deux, finalement dans une espèce de lutte continuelle et en même temps qui nous place dans l'ici et maintenant, que ce soit dans les situations diverses en fait. Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour ces trois communications très intéressantes. Maintenant, je vais laisser la parole à notre discutant, donc Sébastien Cap, pour un petit peu lancer les questions ensuite, puisqu'on aura un petit temps d'échange avec la salle. Voilà.
Merci aux organisateurs, puisqu'il y a un homme, donc le masculin. C'est ça ? C'est une femme, Simeng, ou c'est un homme ? C'est un homme, ouais. Triste, d'accord. Organisatrice, autant pour moi, de m'avoir invité, sollicité pour cette journée d'études. Par où commencer, en fait ? On peut commencer par reprendre tout simplement la problématique, ou en tout cas la question qui est posée par cette journée doctorale, cette journée d'études, qui concerne en fait le métier de doctorant et derrière l'idée que... une réflexion autour de la profession, en fait, ou de ce qu'est devenir un professionnel. Et c'est une discussion, en fait. Alors moi, je suis sociologue, donc je m'excuse, mais on a quelques obsessions en sociologie, vous savez, que ne partagent pas les autres sciences humaines. Donc je m'excuse si j'avance un petit peu quelques tropismes, en fait, quelques obsessions compulsives qu'ont les sociologues à analyser les rapports sociaux, etc. Bref. La question de la professionnalisation, toute la question autour du professionnel, on va dire, pas en tant que personne, mais en tant qu'univers, on l'a souvent de manière informelle ou de manière un peu plus formelle dans les discussions qu'on a avec les encadrants, avec les chercheurs, etc. C'est une discussion que moi j'ai de manière assez informelle avec des collègues chercheurs qui ont été des gens qui ont compté pour moi et qui comptent toujours dans mon parcours de recherche, y compris pendant la thèse, qui ont été dans le jury, etc. Des gens comme Howard Baker, par exemple, donc le sociologue américain que je pense vous connaissez tous. Et puis un deuxième sociologue américain, qui est Jack Katz, donc de UCLA, qui lui est toujours en fonction par rapport à Baker, qui lui tente de profiter de sa retraite, mais n'y arrive pas. Et donc, qu'est-ce que c'est de devenir un professionnel ? C'est une discussion qu'on a eue assez récemment, en fait. Comme dit Jack Katz, pas du tout au sujet des étudiants en sociologie ou des doctorants, mais quand même un petit peu, il dit, il y a un article auquel on peut renvoyer assez facilement, cet article a été traduit dans la revue ethnographique qui s'appelle « Se cuisiner un statut ». Donc en anglais c'est « Cooks cooking up recipes ». Et il dit, on fait tous de la cuisine. Éplucher une banane, c'est cuisiner. Jeter des nouilles dans de l'eau bouillante, c'est déjà cuisiner. Et si on cuisine tous pour se nourrir, on ne peut pas tous dire qu'on est cuisinier. Donc il y a une différence entre avoir une activité et se considérer comme un professionnel, justement, de cette activité. Alors, et donc il part sur tout un développement, et je vous en reparlerai par la suite. Alors où se situerait le côté professionnel du chercheur ou du doctorant ? Où se situerait, en fait, si on prend cet axe-là, sa compétence ? Quelle serait la compétence du chercheur ? Alors à mon avis, il y a deux axes, ou quelles seraient les compétences, donc il y a deux axes selon moi, qui sont liés au double axe qui de toute manière structure les sciences sociales, donc je vous les énonce comme je les conçois. Une compétence technique qui est liée au caractère scientifique de la démarche des sciences sociales, c'est-à-dire une démarche avec des protocoles, avec des expériences, etc. Donc il y a... Vous savez que les sociologues disent... certains disent que ce n'est pas des sciences expérimentales, et puis il y en a quand même deux sociologues, je trouve, de référence, qui disent qu'il en existe. Il y a notamment Durkheim qui dit que certes, le sociologue ne fait pas d'expérience, mais les acteurs sur le terrain font des expériences, et c'est ça qu'on peut étudier en tant que sociologue. Et puis à l'opposé du cadre temporel et aussi idéologique, il y a Bruno Latour qui nous dit qu'en fait, les sciences sociales sont des sciences de laboratoire, et que le laboratoire ne se situe pas dans des éprouvettes et sur des paillasses et sur des carrelages blancs, pour les gens qui font des sciences sociales, mais plutôt dans le texte. C'est au moment où on écrit qu'en fait, on fait des des expériences, on tourne son texte, on fait des hypothèses, on trafique, ou plutôt on manipule des données, qu'elles soient chiffrées ou qu'elles soient recueillies par des entretiens. Donc si vous voulez, il y a ce côté recueil des données, qui serait le premier axe. Donc j'ai une compétence de recueillir des données sur mon terrain, puisque je suis scientifique comme un autre scientifique finalement, pas vraiment différent d'un biologiste ou d'un mathématicien. Et puis il y a la deuxième dimension des sciences sociales, qui est le rendu des résultats, et qui là nous écarte des autres types de sciences moins sociales, qui serait donc le rendu par une forme extrêmement littéraire en fait, un rendu par le texte. Donc cette dimension-là compte beaucoup plus pour les disciplines des sciences sociales que pour les autres disciplines. Lisez des rapports, des thèses de maths par exemple, pas pour comprendre, pas parce que ça vous intéresse, mais simplement pour voir comment c'est fichu en fait. Vous verrez qu'il y a une vraie différence entre une thèse d'histoire et une thèse de mathématiques. C'est une évidence, mais il faut encore le constater. Donc à la fois on aurait des compétences qui feraient notre métier, ce qui ferait qu'on soit des professionnels, ce seraient nos compétences de recueil des données, donc de faire des bonnes enquêtes, et puis à la fois on devrait coupler évidemment ces bonnes enquêtes avec des bons rapports de recherche, quelle que soit la forme qu'ils prennent, que ce soit des livres, que ce soit des articles, que ce soit des thèses, ou que ce soit même des mémoires de recherche. Donc il y a toujours ces deux axes. Et puis, la question de la professionnalisation, cette fois, donc le processus par lequel on devient un professionnel, est liée, comme l'a rappelé Marc Bessin dans son introduction, aux questions d'accompagnement. On ne devient pas professionnel tout seul, on ne s'auto-forme pas, je pense. Pas en tout cas dans la majorité des cas, ni pour l'essentiel de ce qu'on apprend, ne vient pas de soi-même, en fait. Et donc une partie importante de cette professionnalisation dépend de l'institution. Mais ça dépend aussi, et la preuve est là aujourd'hui, vous êtes tous là pour ça, dépend pas que de l'institution, dépend aussi des formes de mobilisation que les acteurs qui sont clients, on va dire, de cette professionnalisation, donc la façon dont on se mobilise collectivement autour de projets, qu'ils soient des journées d'études, qu'ils soient des séminaires, donc comme le séminaire des aspects concrets de la thèse qu'on anime ici et qu'on continue d'animer cette année d'ailleurs, autour de projets donc de séminaires, autour de projets d'ouvrages, enfin bref, tout ce qui nous permet de nous rencontrer à un moment, de nous mobiliser, de nous poser ce genre de questions. Mais au-delà de ça, au-delà de ces quelques constats sur qu'est-ce que c'est que se professionnaliser ou quel est le processus de professionnalisation, il faut aussi penser à l'après. Parce qu'on l'a dit aussi en introduction, le statut de doctorant est un statut transitoire. Et j'ai l'impression, à vous entendre et à vous lire aussi, puisque les organisatrices donc, m'ont envoyé les communications, et c'est un constat général depuis le temps qu'on s'occupe de regarder ce qui se passe au niveau de la thèse et des doctorants, donc on en fréquente beaucoup, et on écoute beaucoup ce que nous disent les doctorants, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de conscience de classe du doctorant, qu'il y a une espèce de condition doctorale. Je vais prendre des exemples dont on vient d'entendre parler, hein, la réflexion autour de la Nanke, par exemple. Et je me demande si finalement, il n'y a pas une vision, alors je ne sais pas à quoi elle est due, il faudrait faire l'enquête, mais en tout cas je constate que ça existe, une espèce de vision déterministe des choses. On a l'impression que des fois les doctorants renvoient une identité de classe opprimée, qui doit un petit peu, dans un vocabulaire très marxien, le vocabulaire est très important, j'ai relevé plein de termes comme ça, je pense, assez fort de sens, donc qui doivent partir un petit peu à la conquête de leurs propres moyens de production, donc c'est-à-dire conquérir un petit peu la classe bourgeoise, hein, donc qui serait celle des gens qui ont un poste, qui ont un statut, pour, à leur tour, et bah, être en mesure de produire, et qu'est-ce qu'ils produisent? Bah, ils produisent des recherches, ils produisent des livres, ils produisent des articles. Donc finalement, l'axe sous lequel souvent on aborde la professionnalisation d'un point de vue un petit peu sauvage, comme ça, comme je le fais, peut tourner autour de la question du devenir. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va être? Etc. Et quand on réfléchit à ça, et bien évidemment, il y a une grosse zone de flou, et l'expression, et je le prends encore, je ne le sors pas de mon chapeau, je le prends des textes que j'ai lus et de ce que j'ai entendu, de sentiment d'exclusion, de sentiment, comme tu l'as dit, d'inégalité des savoirs au moment où on démarre la thèse, de certains sujets qui pourraient être à côté de la plaque, encore une fois, je cite ça, ce que j'ai entendu, j'essaie de me relire en même temps, la notion aussi de qu'est-ce qu'on partage, est-ce qu'on a des collègues, donc il y a aussi cette notion de groupe social, classe, c'est peut-être un peu fort, mais cette notion de groupe social de référence, à quel groupe on appartient, qui sont nos collègues, qui sont nos égaux, qui sont nos supérieurs, peut-être. Il faudrait peut-être considérer les choses. En tout cas, moi, ça me semble assez criant, en fait. Et puis, en même temps, d'autres items de vocabulaire qui seraient associés en fait à système de réflexion, la notion d'être un usurpateur dans son statut, la notion d'exercer un travail alimentaire qui n'est pas de lien avec sa recherche, la notion de gêne, l'idée aussi que le travail puisse être récupéré ou puisse être politisé, la nécessité d'avoir une mise à distance de son travail, les notions de connivence, les notions d'engagement, les notions de précarité, qui sont toutes ces notions, les notions de motivation, etc. Tout le temps, la question du statut, de la pertinence, de la légitimité, tout ce vocabulaire-là, qui est un petit peu un vocabulaire de classe, on va dire, enfin, en tout cas, dans une approche marxienne, revient, je pense. Et là, on peut prolonger la réflexion, un petit peu, encore une fois, de manière intempestive, comme je le fais, autour de... d'une réflexion autour des capitaux. En fait, on a entendu aussi parler des doctorants allocataires, notamment des normaliens, qui en gros nous expliquent qu'ils se voient, donc c'est quand même 10% des doctorants en moyenne qui ont une allocation. Hein, donc c'est quand même une frange extrêmement réduite de gens qu'on pourrait tout à fait considérer comme des privilégiés. Et d'ailleurs, ils en ont tout à fait conscience eux-mêmes. Et puis, de toute manière, il ne faut pas non plus trop se leurrer. Les gens qui arrivent à pousser leurs études jusqu'à arriver en doctorat ne sont généralement pas issus, comme tous les diplômés de haut niveau, des classes les moins favorisées de la société. Ne soyons pas trop aveugles sur nos propres conditions d'origine. Et donc, je me demande si on n'aurait pas un petit peu cette image d'un doctorant qui, se retrouve dans une situation très inconfortable. Non pas qu'il soit forcément un étudiant bourgeois qui ait les moyens. Moi aussi, j'étais doctorant. Je sais que ça n'a rien de bourgeois comme style de vie, le doctorat. Mais plutôt face à l'idée qu'il faille conquérir d'autres types de capitaux qu'eux-mêmes renvoient comme étant des capitaux symboliques. Donc, encore une fois, basé sur ce vocabulaire d'usurpation, de faire ses preuves, de conquérir des espaces de parole, de savoir où on se place, d'oser aller dans des universités auxquelles on n'appartient pas, de dire qui sont ses collègues, de se situer simplement. Donc, de changer un petit peu de face, de changer un petit peu de planète, entre guillemets, pour passer peut-être de capitaux... vous le savez, dans le monde de la recherche, le capital financier est de toute manière négligeable. C'est pas pour faire du fric qu'on fait de la recherche. Ça, si vous pensez ça, vous vous êtes trompé, je vous l'annonce. Mais plutôt, donc, un capital symbolique, un capital intellectuel, etc. Et notamment porté, évidemment, comme toutes ces réflexions, par des institutions, je pense notamment à un truc qu'on m'a dit récemment qui m'a fait beaucoup rire. Je dis pas ça cyniquement, mais je trouvais l'expression tout à fait rigolote. Quelqu'un qui proposait une recension donc de l'ouvrage qui circule actuellement et qui m'envoie la recension pour me dire qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est un ouvrage collectif, c'est dur à recenser, je sais pas exactement comment faire. Est-ce que j'ai pas dit des bêtises, etc. Jette un œil et puis dis-moi ce qu'il en est. Et en fait, il dit, la critique à laquelle on s'était attendu, que le livre est un ouvrage parisianiste, qu'il n'y a pas d'auteur, enfin deux auteurs sur 25 qui n'appartiennent pas à des institutions parisiennes, etc. Bref, on pouvait s'y attendre. Mais il décrit aussi le HESS, je vous livre la formule telle qu'elle m'a été donnée, comme le temple de l'élitisme républicain. Je trouve ça formidable parce que moi, j'avais jamais entendu parler de l'HESS de cette façon, mais visiblement, c'est ce que certains universitaires de province peuvent penser. Je ne sais pas si c'est généralisé, mais on est dans tout ce vocabulaire. Je pense que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Chacun, pas avec l'histoire de ce qu'on dit de l'HESS, ça, je m'en fous, chacun dit ce qu'il veut, mais plutôt avec cette... je me demande s'il n'y a pas un risque, en fait, de considérer assez systématiquement la condition doctorale selon une logique de classe, selon une logique déterministe. On a l'impression que les doctorants se présentent systématiquement, enfin peut-être pas systématiquement, mais souvent quand même, comme les dominés d'un système où ils aspirent à conquérir en fait plus de place, plus de pouvoir, et donc ils se posent les questions que le système qui les opprime, donc comme tous les opprimés, c'est ça la logique, ils se posent les questions que les opprimés, que les oppresseurs veulent bien leur permettre de se poser. Mais je pense que on peut réfléchir aussi différemment. On peut aussi réfléchir selon une approche qui est plus autour articulée, c'est pour ça que je citais Jack Katz en commençant, autour de l'axe avoir et autour de l'axe faire. Donc c'est grosso modo ce qu'il fait dans son article. Donc comment on articule l'avoir et le faire ? Donc on est proche, hein, une réflexion un petit peu marxienne comme ça, mais plus tournée vers l'action en fait, vers ce que j'ai, ce que j'en fais, où je veux arriver et finalement comment je m'en sors. C'est son optique. Il a travaillé sur des quartiers d'Hollywood à Los Angeles et il a montré comment des gens qui sont issus des classes tout à fait favorisées, des très riches, des très bourgeois, s'en sortent en mettant en œuvre leurs moyens, et puis aussi des SDF, des prostituées, des toxicomanes, des gens du quotidien, des gens qui tiennent des épiceries, etc. Un peu tout le monde. Comment ces gens s'en sortent? Qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils font? Et donc, comment on cuisine? Quels sont les ingrédients qu'on possède et quelle est la recette qu'on veut faire? Vous avez tous été dans la situation où vous rentrez chez vous le soir, vous ouvrez le frigo, et là, vous devez avoir une grande réflexion créative pour savoir comment on fait un repas avec de la mayonnaise, des cornichons et une tranche de fromage. Surtout les doctorants, à mon avis, ils sont très créatifs d'un point de vue culinaire. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Et ça nous permet de sortir, je crois, fondamentalement, des questions qui sont liées au statut. Ça nous évite d'un peu trop nous regarder dans un miroir, d'un peu trop considérer ce qu'on est, où on va, des questions un petit peu existentielles qui sont nécessaires, parce qu'on doit se situer, évidemment, c'est aussi la découverte d'un nouveau continent. Quand on se lance dans une thèse, évidemment, on n'est plus étudiant. On ne nous dit plus quoi faire. Du jour au lendemain, on nous dit bah, « fais un truc et rendez-vous dans 3 ans. » Et ce truc devra faire 500 pages. Et pff, tu verras, laisse-toi porter. Bon, c'est très déstabilisant. Mais c'est ça, une thèse. Et on ne peut pas avoir une réflexion qui soit orientée vers soi-même pour s'en sortir au sens de Jack Katz, parce que alors on n'a pas du tout fait l'inventaire des moyens qu'on a, on n'a pas du tout déterminé ses objectifs, et finalement, beaucoup de ces questions sont autant de temps qu'on ne passera pas à faire effectivement la recherche qui nous est demandée. Donc on pourrait avoir une réflexion un peu plus transversale, comme celle que fait Baker, c'est ce qu'il dit dans le bouquin, hein. Il dit en gros, les doctorants, ils ont 3 problèmes, hein. Ils ont comment commencer sa thèse, comment la finir, et que faire entre les 2. Mais c'est vrai, mais c'est comme ça que c'est. Donc comment on commence un terrain, c'est valable, c'est transversal comme idée, hein. Vraiment, ça concerne beaucoup d'aspects. Comment on commence son terrain, comment on commence sa thèse, comment on approche un labo, comment on publie. Et puis surtout, ça nous permet aussi, puisqu'on a ce qu'on a et ce qu'on fait, et donc c'est évidemment lié, puisque c'est un processus, la professionnalisation, à ce qu'il y a après la thèse, eh bien considérer ce qu'on doit faire quand on a fini la thèse. Et quand on y réfléchit, finalement, faire de la recherche avec ce considérer ce qu'on a et considérer ce qu'on doit faire, c'est-à-dire avoir des ingrédients pour cuisiner et que ça donne à la fin un truc qui est à peu près mangeable, eh bien c'est ça la vie d'un chercheur. C'est ça la vie d'un chercheur, et ça ne change pas. Ça ne change pas parce qu'on a un poste, on est toujours à la recherche de financement, on a toujours des doctorants, on a toujours des collègues, on a toujours des rapports d'évaluation, on nous demande toujours de produire des choses qu'on n'a pas envie d'écrire, on nous demande de participer à des journées auxquelles on n'a pas envie de participer. C'est pas mon cas, hein, mais ça arrive. Sachez que dans votre vie de chercheur, vous irez aussi parler dans des trucs où vous n'avez pas du tout envie de parler, vous devrez écrire des évaluations que vous n'avez pas envie d'écrire. Bref, on en est toujours là. Donc finalement, pour conclure, si j'ai un petit peu pas une morale, mais en tout cas, passer un petit peu du côté, pas prescriptif, mais d'un côté un petit peu normatif, je pourrais inciter en fait les doctorants à plutôt réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux faire? Pas considérer que mon boulot de caissier est nécessairement déconnecté de ce que j'étudie. C'est pas vrai, ça se voit dans ce que tu dis. J'ai détecté l'existence d'une fonction fatigue dans mon métier de caissier. Ben, je ne suis pas sûr que tous les caissiers aient cette réflexion-là. Les caissiers sociologues, oui, sans doute. Mais pas tous les caissiers. Tu vois ? Donc c'est des éléments, tout le temps, à réintégrer, je pense, dans la réflexion. Et pour ceux, donc, je vais conclure là-dessus, parce qu'on est quand même un peu en retard. J'invite tous ceux qui souhaitent partager ce genre de réflexion. Alors évidemment, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et bien à participer au séminaire donc des aspects concrets de la thèse qui aura sa rentrée, donc c'est la breaking news, le 10 novembre à l'EHESS avec donc Jack Katz qui nous fera une intro sur cette même thématique. Et donc je vais rendre le crachoir, il s'agit de discuter, voilà, merci à vous.